9h-10h, c'est arrivé cette semaine.
Frédéric Taddeï sur Europe 1.
Bonjour, bon week-end. Le massacre d'Uvalde au Texas nous plonge dans des abîmes d'horreur et de perplexité. Comment une chose pareille peut-elle se produire encore et encore dans un pays comme les États-Unis? Pour tenter d'y voir plus clair, j'ai invité Alexandre Rode. Il est un spécialiste des tueries en milieu scolaire. Mon deuxième invité sera Giuliano D'Ampoli, qui vient de publier un roman, Le Mage du Kremlin. Lui peut nous aider à comprendre ce qui se passe en Russie et dans la tête de Vladimir Poutine. Et l'on terminera l'émission avec Jean-Philippe Derosier. Il est professeur de droit public et il a une idée assez originale en ce qui concerne les élections législatives. Cela pourrait changer pas mal de choses. Il va nous expliquer pourquoi. Alexandre Rode, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chercheur spécialisé dans les tueries de masse. Vous avez fait une partie de vos études aux États-Unis. Vous êtes officier de la réserve opérationnelle de la gendarmerie française. Et vous êtes l'auteur, avec Bernard Meunier, de Passage à l'acte aux éditions Kiwi. Un livre, j'allais dire le livre, sur les tueries en milieu scolaire. Alors comment peut-on passer à l'acte, abattre de sang-froid 19 enfants en bas âge et leurs instituteurs avant d'être tué à son tour alors qu'on a 18 ans? Il faut être fou. Est-ce que c'est le cas?
Alors la question se pose toujours depuis maintenant 20 ans avec le phénomène qui a évolué. Le cas le plus connu et le plus célèbre de la version moderne de ce phénomène, c'est la tuerie de Columbine en 1999. Les explications qui ont été apportées ont été multiples, certaines vraies, certaines fausses. Je pense qu'il faut d'abord essayer d'éliminer les réponses un peu simplistes qui ont été mises en avant. Évidemment, l'attaque est toujours multicausale. Il faut éviter de qualifier ces choses-là en pensant que c'est simplement une problématique de harcèlement scolaire, liée aux jeux vidéo, parfois aux médicaments, ces choses qui peuvent être évoquées. On voit un certain nombre de critères qui peuvent être mis en place, notamment la santé mentale, mais qui sont toujours liés à d'autres.
Est-ce qu'il y a un profil type ?
Pas vraiment. Quand on observe les cas, on voit des profils assez différents, de point de vue socioculturel, d'un point de vue du degré d'éducation, d'un point de vue de l'âge, qui varie aussi, de la cible, de la géographie des actions. On a des cas aux États-Unis évidemment, mais on a dans d'autres pays d'Europe notamment. On peut penser à la Finlande, à l'Allemagne, à le cas moins, heureusement, pas mortel qu'on a vu en France à Grasse en 2017. Donc on voit une absence de profil et on retrouve ça chez des jeunes qui sont assez différents.
Mais qu'est-ce qui décide le passage à l'acte? Pourquoi sort-on de chez soi un jour avec une arme de guerre, déterminé à faire le plus grand nombre de morts possible avant de mourir soi-même? Parce que c'est généralement ce qui se passe. C'est quoi? C'est un coup de colère?
Alors justement, c'est plutôt pas un coup de colère. On a tendance à l'expliquer comme ça. On va le voir, dans la majorité des cas de tuerie de masse en milieu scolaire, on a un processus qui est réfléchi, préparé pendant plusieurs mois, et qui, est juste la culmination de cette préparation. Les justifications, elles sont multiples. On a, d'abord la volonté d'un acte de communication, c'est souvent le cas, on le voit, un phénomène de contagion lié à la fusillade de Columbine, la répétition d'un script social dans certains pays, notamment aux États-Unis, et pour certains, une volonté de célébrité.
Mais pourquoi c'est toujours en milieu scolaire, en tout cas de préférence à un cinéma, une cafétéria, une salle de concert ou une boîte de nuit?
Quand on parle de tuerie de masse au sens large, on a de nombreux sites qui sont touchés. Les tueries de masse en milieu scolaire ne sont pas les plus connues. Elles sont les plus marquantes parce que les plus médiatisées. Hein. L'école est un lieu qui est un lieu sanctuaire, qui est symbolique. Donc c'est pour ça qu'on en parle le plus, mais on le voit, on a majoritairement des attaques dans ce qu'on appelle des ERP, des établissements rassemblant du public, ou parfois en plein air. C'était le cas notamment sur les dernières attaques qu'on a pu avoir en 2020, plus de gens en extérieur, donc plus d'attaques sur des rassemblements en extérieur. Les écoles représentent une cible qui n'est pas particulièrement touchée par rapport au reste des sites de tuerie de masse.
Vous avez l'air de dire qu'il y a quand même un processus d'imitation qui est à l'œuvre. On imite les massacres qui ont déjà eu lieu.
Tout à fait, et c'est particulièrement le cas pour les tueries de masse en milieu scolaire. Le modèle, type pour les tueries de masse en milieu scolaire, c'est la tuerie de Columbine en 1999. Elle avait été conçue comme telle par les deux assaillants, Eric Harris et Dylan Klebold, qui espéraient que leur attaque soit médiatisée. Ils l'avaient conçue pour ça en laissant du texte derrière eux, des vidéos et des explications de pourquoi ils avaient passé à l'acte de cette façon-là. Depuis, la tuerie de Columbine est citée comme une inspiration par la majorité des assaillants qu'on peut voir, et ce, aux États-Unis, mais aussi dans des pays très différents, comme en Russie récemment.
Mais qu'est-ce qu'ils espèrent, les assaillants? Parce qu'on sait comment ça se termine, on est tué par la police, ou on se suicide, et le monde entier vous méprise. Votre propre famille, d'ailleurs, finit par cracher sur votre cadavre. En quoi c'est valorisant de s'attaquer à des enfants sans défense? Pourquoi ne se sacrifient-ils pas, s'ils veulent se sacrifier, en tirant, sur des trafiquants de drogue ou sur des policiers?
Ce qu'on peut voir en lisant les manifestes laissés derrière, en étudiant chacun des cas, c'est que globalement, pour certains, ils voient ça comme une solution. Ils se retrouvent dans un échec dans leur vie, professionnelle pour les plus âgés, dans leur vie scolaire pour les plus jeunes. Et ils se disent, à défaut d'être admiré ou d'être marqué, je serai connu, on se rappellera de moi pour quelque chose que je réussis, une action violente. Et il y a cette volonté de célébrité par la violence, de se dire, à défaut d'être admiré, je pourrais être honni. Et de choisir cette voie-là. Et du fait du script social qui a été répété aux États-Unis, qui est devenu fréquent, on a ce phénomène qui se développe.
On fait une pause, Alexandre Rode, on se retrouve juste après.
9h, 10h, c'est arrivé cette semaine.
Avec Frédéric Taddeï sur Europe 1.
Nous sommes ce matin avec Alexandre Rode. Il est le co-auteur avec Bernard Meunier de Passage à l'acte, un livre sur les tueries en milieu scolaire. C'est paru chez Kiwi. Vous êtes également officier de la réserve opérationnelle de la gendarmerie française. Est-ce que les Français ont peur que ça arrive aussi chez nous, des massacres comme celui qui vient d'être perpétré au Texas? C'est rare, on va y revenir, on va y venir au cas de l'Europe. Mais est-ce qu'on se prépare à ça?
Alors moi je pense qu'il ne faut pas faire d'alarmisme sur cette problématique-là, c'est une problématique qui est relativement minoritaire en France. Hein. Le risque principal sur une attaque d'ampleur en France, c'est la menace djihadiste, celle qui est relativement active sur le territoire depuis une dizaine d'années. Des cas de tuerie de masse en milieu scolaire en France, on a eu une tentative qui a fait 4 blessés par balle et 4 blessés supplémentaires à Grasse en 2017, au mois de mars. Alors, on a eu quelques arrestations d'adolescents qui préparaient ce genre d'attaque au fur et à mesure des années, mais ça reste extrêmement rare. Encore une fois, les forces de l'ordre s'y préparent de façon régulière, je ne peux pas rentrer dans les détails sur ce qui est fait, mais c'est un sujet qui est évidemment envisagé et qui est travaillé régulièrement.
Est-ce que la législation américaine sur les armes à feu est un facteur déterminant? C'est comme ça qu'on l'appréhende ici, de ce côté de l'Atlantique. On se dit à chaque fois, ah bah oui, ça recommence aux États-Unis parce qu'ils ont la législation qu'ils ont sur les armes.
La problématique est légèrement plus compliquée que ça. Évidemment, l'accès aux armes facilite la fréquence des attaques et facilite l'ampleur des attaques. C'est beaucoup plus facile quand on a accès à de l'armement, comme pu l'avoir Salvador Ramos à Uvalde, de faire plus de victimes que si on était si on avait uniquement accès à une arme blanche ou ce genre de choses. Encore une fois, on a malgré tout vu des attaques dans des pays où la législation sur les armes est relativement stricte, hein, je pense à l'Allemagne, la Finlande, la Russie. Donc ce n'est pas le seul facteur. C'est un facteur qui, malheureusement, joue sur la fréquence et sur l'ampleur des attaques.
Vous venez de citer son nom, je l'ignorais d'ailleurs, le nom du garçon qui a perpétré ces crimes épouvantables. Vous avez cité de la même manière les noms des deux responsables de l'attaque de Columbine. Si c'est un processus d'imitation et si c'est le goût de la célébrité par la violence qui anime tous ces jeunes, est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux taire leur nom?
Encore une fois, malheureusement, les noms ont été diffusés dans la presse, hein, c'est le cas à chaque fois, comme leur visage, comme la publication qu'ils ont pu faire sur les réseaux sociaux. Malheureusement, si on n'évoque pas leur nom à eux, si on n'essaie pas d'expliquer ce qui s'est vraiment passé, quel type d'individu c'était, et pourquoi il était en échec, et comment il a choisi de commettre cette tragédie et ce meurtre atroce, on leur laisse les derniers mots sur ce qu'ils sont et la façon dont ils se décrivent. Et malheureusement, pour des adolescents qui se penchent sur la question, qui peuvent être intéressés, qui peuvent avoir une curiosité qui est parfois morbide, et dans le pire des cas, peut-être la volonté de passer à l'acte, ils n'ont accès qu'au texte et qu'aux publications des assaillants, et avoir leur version du monde. Quand on essaie d'offrir une version complète, en essayant de dire réalistiquement quelle était la vie de l'assaillant, comment il est passé à l'acte, pourquoi c'est tragique et pourquoi c'est des choses qui ne doivent pas être répétées, on permet de faire un contre-discours qui me paraît pertinent.
Revenons à la législation sur les armes. L'Australie, en 1996-1997, après le massacre de 35 personnes à Port Arthur, a confisqué et détruit 650 000 armes, d'abord après avoir changé la législation, hein, bien entendu. 650 000 armes qui étaient détenues par des particuliers, et les tueries de masse, les homicides, mais aussi les suicides, ont immédiatement baissé. Est-ce que vous pensez que ce serait la même chose si les Américains se résignaient, dans leur cas, à changer la législation?
Effectivement, le NFA, le National Firearm Agreement d'Australie, qui était passé en 1996-1997, suite à la tuerie de Port Arthur, avait permis de saisir à peu près 643 000 armes, si je ne me trompe pas, pour un coût de 350 millions de dollars. On a eu une réduction des fusillades de masse, mais on a encore vu un certain nombre de cas de tueries de masse qui avaient lieu. Alors elles n'étaient plus tellement par arme à feu, on a eu des cas par incendie notamment, on a eu des cas au couteau, et on a encore des tueries de masse en Australie qui arrivent de façon rare. Ça reste relativement rare, mais ça existe également. Ça ne l'a pas stoppé complètement. Transposer une politique comme ça aux États-Unis, ça serait plus compliqué. Bon, la première raison, c'est la quantité d'armes qu'il y a sur le territoire. On estime environ à 400 millions le nombre d'armes qui sont présentes sur le territoire américain, détenues par des civils. Ce qui veut dire 6 à 7 fois ce qu'on peut avoir en Australie. Donc on parle d'un budget qui pourrait être 6 à 7 fois supérieur. En plus de ça, il faut pouvoir les localiser. Ce qui était, comment dire, ce qui est pas forcément facile, sachant qu'une partie de ces 100 millions de nuits sont enregistrées uniquement sur papier, ou pour certaines, ne sont pas enregistrées parce qu'elles ont été vendues à des particuliers par plusieurs fois, notamment pour tout ce qui est armes d'épaule. De plus, l'Australie, à ce moment-là, avait une population qui était très favorable à cette idée de la récupération des armes. Malgré quelques oppositions, notamment les groupes de chasseurs, on avait un certain nombre de gens qui ne s'y opposaient pas. Aux États-Unis, la contestation serait beaucoup plus importante. Le financement serait également nécessaire pour et serait beaucoup plus important. Et encore une fois, même une fois qu'elles sont localisées et que le rachat était pouvoir être financé, il faut aller les récupérer. Et ça pose une série de problématiques de sécurité intérieure si on a cette opposition sociale à ce moment-là. Donc encore une fois, difficile à mettre en place sur la même ampleur aux États-Unis.
En Europe, vous l'avez dit, les massacres en milieu scolaire sont plus rares, voire beaucoup plus rares que les États-Unis, où ils ne cessent de se répéter. Néanmoins, en France, vous avez cité Grasse, mais on se souvient aussi du cas de Mohamed Merah dans une école juive de Toulouse en 2012 et de la prise d'otage de la maternelle de Neuilly en 1993 par un certain Eric Schmidt, armé d'un pistolet d'alarme et d'une ceinture d'explosifs. Est-ce que c'est comparable pour vous?
Alors encore une fois, on parle de trois phénomènes différents. Quand on parle de tuerie de masse, on parle normalement de quatre personnes décédées au même endroit, au même moment. C'est le cas de la tuerie perpétrée par Mohamed Merah devant l'école des oratoires de Toulouse. Pour les autres, on a eu la chance de ne pas avoir de décès parmi les victimes potentielles, donc on ne parle pas de tuerie de masse. Mais évidemment, on parle d'intrusion armée en milieu scolaire.
Et Eric Schmidt
Et
avait été abattu par la
scolaire.
Police. Hein.
Oui. Oui, je parlais parmi les victimes, pas parmi les assaillants. Mais effectivement, la problématique d'intrusion armée au milieu scolaire, des gens qui rentrent avec une arme, elle est régulière en France, elle prend des formes qui peuvent être diverses, moins graves que ce qu'on a pu voir à Uvalde par exemple, mais ça peut être l'entrée d'un individu avec un couteau, alors ça peut être plusieurs choses, hein. Ça peut être des parents en colère, ça peut être dans certains cas des personnes qui ont des troubles psychiatriques qui rentrent dans des établissements, comme ça a été le cas par exemple à l'Université du Mans au mois de mars, ça peut être des gens qui essaient de se réfugier après avoir commis un crime dans un établissement scolaire, je pense à Villeneuve-d'Ornon au mois d'avril par exemple. Ou également des disputes entre élèves et extérieurs. On a eu un cas à Chelles au mois de dans Seine-et-Marne au mois d'avril également, avec un élève qui a été poignardé par un individu extérieur après une dispute. Donc encore une fois, la problématique est moindre en France. Heureusement, on a assez peu de cas, mais elle existe de façon régulière sous des formes qui sont moins graves que celles du Valdé.
Merci Alexandre Rode pour toutes ces explications. Je renvoie à la lecture de votre livre, hein, Passage à l'acte, coécrit avec Bernard Meunier. C'est paru aux éditions Kiwi. On a maintenant rendez-vous avec Giuliano D'Empoli. C'est l'auteur du Maître du Kremlin. C'est un roman, mais qui permet d'entrer peut-être un peu dans la tête de Vladimir Poutine.
9h-10h, c'est arrivé cette semaine.
Frédéric Taddeï.
Bonjour Giuliano D'Empoli.
Bonjour.
Vous avez été adjoint au maire de Florence, chargé de la culture, conseiller du ministre de la culture italien Francesco Rutelli, conseiller de Matteo Renzi. Vous publiez régulièrement des éditoriaux dans les grands journaux italiens, des livres aussi. Cette fois, c'est un roman écrit directement en français. Vous êtes né en France, vous enseignez à Sciences Po. Il s'intitule « Le mage du Kremlin ». Il vient de paraître chez Gallimard. Il nous entraîne dans les arcanes du pouvoir russe, dans l'ombre de Vladimir Poutine, à travers les yeux de l'un de ses proches conseillers. Un personnage inspiré de quelqu'un qui a vraiment existé. Alors, c'est un roman écrit avant l'invasion de l'Ukraine, mais qui a été rattrapé par l'actualité, un peu comme Le Dictateur, dont Chaplin avait commencé à écrire le scénario un an avant que Adolf Hitler n'envahisse la Pologne. Est-ce que vous avez été surpris par l'invasion de l'Ukraine?
Oui, j'ai été surpris comme tout le monde le 24 février, même si effectivement le livre se base un peu sur l'idée que les éléments du pouvoir de Poutine, dont nous voyons aujourd'hui le paroxysme et donc son fondement, disons, de violence et cette sorte de mythologie nationale sur laquelle il se base, eh bien, ces éléments-là étaient présents dès le début de l'avènement de Poutine à la fin des années 90.
En même temps, le portrait que vous faites à travers les yeux de son conseiller, le portrait que vous faites de Vladimir Poutine, c'est pas du tout celui d'un fou, hein.
Non, mais très franchement, même la décision d'envahir l'Ukraine, Je ne pense pas que ce soit la décision d'un fou. Je pense que ce soit la décision de quelqu'un qui a fait un très mauvais calcul, qui pensait qu'il y avait toute une série de présupposés, la supériorité de l'armée russe, la faiblesse du leadership ukrainien, de l'armée ukrainienne et de l'OTAN et de l'Europe, la division du peuple ukrainien, enfin toute une série de choses qu'il s'attendait de trouver et qu'il n'a pas trouvé. Mais ce n'est pas nécessairement la décision d'un fou. Et en effet, l'histoire que je raconte est quand même l'histoire de quelqu'un d'absolument impitoyable, mais assez lucide aussi.
Et quelqu'un surtout qui a rétabli l'ordre et l'unité en Russie après le chaos des années Yeltsin. Les Russes aiment l'ordre, hein, vous l'expliquez dans ce livre. Le modèle soviétique, à leurs yeux, avait sa force et sa dignité. Et Vladimir Poutine a restauré la verticalité du pouvoir. Et cela, les Russes lui en sont reconnaissants. Alors c'est quoi la verticalité du pouvoir ?
Et disons, c'est la façon dont on administre depuis toujours le pouvoir en Russie. Donc, il y a eu les tsars, et puis il y a eu Staline et le Parti communiste. L'horizontalité n'a eu lieu que dans les années chaotiques, années 90, où effectivement, qui ont été d'ailleurs le seul vrai moment de démocratie en Russie et de liberté presque absolue, mais qui en effet a débouché sur le chaos dans les rues de Moscou, des enrichissements impressionnants sur la base de lois de marché un peu sauvages.
Et d'accaparement
et de faillite à la fin de l'État russe qui n'arrivait plus à payer ni les salaires ni les retraites. Donc l'avènement de Poutine, dès le début, se fait au nom de... D'ailleurs, je mets ça dans la bouche d'un des personnages du roman. Si les Russes sont fatigués de la politique, on va leur offrir une mythologie. Et dès le début, l'avènement de Poutine, c'est le retour d'une mythologie verticale russe, et donc d'un pouvoir qui rétablit l'ordre, mais le fait de façon très brutale et très violente.
Aujourd'hui, en Europe, on confisque les avoirs, les villas, les yachts des oligarques proches de Poutine. Mais quand on lit votre roman, on se dit que peut-être que ça ne le fait pas si mal que ça. Car expliquez-vous, les oligarques ne sont pas obsédés par l'argent comme on le croit. Ce qui compte pour eux, c'est le privilège, la proximité avec le pouvoir. C'était vrai du temps des tsars, c'était vrai sous le communisme et encore aujourd'hui, c'est vrai sous Poutine. Le privilège, c'est le contraire de la liberté. Au fond, c'est la cour de Versailles sous Louis XIV en beaucoup plus violent.
Oui, disons qu'en Russie, l'argent, quoique nous ayons cette idée des Russes qui sont très attachés à l'argent, mais le fait même qu'ils en dépensent, la folie de la dépense russe que tout le monde connaît un peu, au moins dans son folklore, est lié à cette conception de l'argent qui en réalité n'a jamais vraiment beaucoup compté en Russie. Elle a compté justement pendant la parenthèse des années 90, mais aujourd'hui, l'argent ne compte plus grand-chose en Russie parce que l'avènement de Poutine a rétabli le vieil ordre russe où la seule chose qui compte, c'est la proximité du pouvoir et la proximité donc au Kremlin, et puis que le Kremlin soit occupé par un tsar ou par un leader soviétique ou aujourd'hui par une sorte de tsar postmoderne, ça ne change pas grand-chose. Mais c'est lui qui est la source de tout bénéfice et donc c'est de lui qu'il faut intercepter la faveur. Et comme vous le disiez, on est dans un mécanisme de cour. Après, toutes les cours absolutistes se ressemblent. Donc, je raconte un peu ça dans le livre. Les cours sont faits de tout un ballet de petits privilèges, de petites distinctions qui peuvent avoir le placement à une table, la proximité même physique par rapport au tsar et mille choses de ce type. équipes qui peuvent sembler peu importantes, mais qui en réalité font le sel du fonctionnement de toutes les cours et justement pas qu'en Russie.
Giuliano D'Ampoglio, on s'interrompt, on se retrouve dans un instant.
9h, 10h, c'est arrivé cette semaine.
Avec Frédéric Taddeï sur Europe 1.
Nous sommes ce matin avec Giuliano D'Ampoglio, l'auteur du Mage du Kremlin, un roman qui vient de paraître chez Gallimard dans la collection Blanche. On y voit un Poutine qui, au départ, quand il parvient au pouvoir, est incorruptible, obsédé par le service public, qui reprend le contrôle des richesses volées sous Yeltsin et qui veut se faire respecter à l'international, quelqu'un qui s'entoure d'hommes comme lui, incorruptibles, qui viennent du FSB, qui constituent avec eux une nouvelle élite d'oligarques, mais qui vont à leur tour devenir corrompus.
Ce n'est pas tout à fait ça, c'est-à-dire que sa rhétorique est incorruptible. Il est peut-être déjà corrompu quand il arrive au pouvoir, mais il se présente de toute façon comme un antidote par rapport à la corruption des oligarques, justement à ces enrichissements qui se sont produits avec cette idée, d'ailleurs très populaire en Russie à l'époque, qu'on va reporter les ressources de l'État qui ont été confisquées par les oligarques sous le contrôle de l'État. Sauf que, évidemment, pour ce faire, Poutine va s'appuyer sur ses réseaux, et ces réseaux sont ce qu'on appelle en Russie les hommes de la force, donc les hommes qui viennent des services secrets, des services d'information, de l'ancien KGB, de l'armée, etc. Et ces hommes-là, vont construire d'énormes richesses, en réalité encore pire d'une certaine façon que les anciens oligarques comme Poutine lui-même, mais ils le feront au nom d'une rhétorique de reprise de pouvoir de la part de l'État et de reprise de contrôle de la part de l'État. Donc, effectivement, le mécanisme est un peu différent, même si le résultat est remarquablement semblable.
On voit son conseiller, celui que vous appelez le mage du Kremlin, théoriser pratiquement l'idée selon laquelle les anti-Poutine, ceux qui dénoncent depuis 20 ans un complot russe, au fond depuis les attentats contre les immeubles de la banlieue de Moscou attribués aux Tchétchènes, qui auraient été commis en réalité par le FSB sur ordre de Poutine, jusqu'à l'élection de Trump aux États-Unis, qui aurait été influencé par les Russes, ou à la victoire du Brexit en Grande-Bretagne, là aussi, qui serait due aux Russes. Au fond, ce sont eux qui ont construit le mythe de la puissance du régime de Poutine. Tout ce qui fait croire à la force, écrivez-vous, l'augmente considérablement.
Voilà, ça c'est une maxime qui est déjà présente, je crois, dans les mémoires du cardinal de Retz. Donc, encore une fois, un peu l'idée que les règles du pouvoir ne changent pas vraiment. Tout ce qui fait croire à la force, donc même les théoriciens des complots qui pensent que il y a ces complots qui se font partout et qui sont orchestrés par le pouvoir, eh bien d'une certaine façon ils renforcent ce pouvoir parce que ils croient à sa puissance à 360 degrés, et c'est le même justement dans le cas russe, où on a bien vu au cours du temps que certaines des manipulations qui ont été du coup faites par des agents russes à plusieurs niveaux, c'est presque comme si on voulait qu'elles soient découvertes, parce que la découverte de la manipulation renforce la manipulation d'une certaine façon.
Mais alors, est-ce qu'il est paranoïaque, Vladimir Poutine? Il voit des complots partout, lui aussi. Navalny, l'opposition, l'Ukraine, la Géorgie, l'Union européenne, l'OTAN, tout ça évidemment soutenu par les États-Unis. On conspirerait tous contre lui et contre la Russie pour l'humilier, notamment. On voudrait prendre le pouvoir au cœur de l'ancien empire russe, le remplacer, lui, Poutine, par des agents de la CIA. Est-ce qu'il est devenu fou? C'est toujours la question qu'on se pose ici en Occident.
C'est difficile de savoir ça. Je pense qu'il part d'une base en partie, appelons-la paranoïaque, qui fait partie de sa formation, non pas d'espion, mais de quelqu'un qui travaille au contre-espionnage. Et ce n'est pas exactement la même chose, parce qu'un espion va rechercher des informations authentiques. L'agent du contre-espionnage est chargé de voir des complots partout pour pouvoir les prévenir et les déjouer. Donc, dans certains cas, même quand ils ne sont pas là. Cela dit, est-ce qu'il a basculé aujourd'hui dans la folie? Je ne suis évidemment pas qualifié pour le dire. Ce qui est certain, c'est qu'il a aujourd'hui un style de vie qui est, que je décris un peu dans le livre, avec ses journées qui commencent avec de longues brassades dans la piscine et après ce travail qui se poursuit jusqu'aux heures du matin, donc toute la nuit, et comme Staline, pour lequel tous les ministres et les autres fonctionnaires devaient rester réveillés la nuit pour lui répondre. Voilà, disons que 22 ans de pouvoir, qui est quand même la drogue, une des drogues les plus fortes qu'on connaisse pour le cerveau humain, ont probablement eu un certain impact sur le cerveau de Poutine aussi.
Alors que peut-il gagner en envahissant l'Ukraine? Parce que ça, c'est l'épreuve de vérité. Il a tout à perdre sur le plan politique, économique, diplomatique et même militaire. Tout ça pour prendre le Donbass ou pour chasser du pouvoir Zelensky, ça paraît ridicule.
Je pense qu'au début, Poutine, sur la base de ces mauvais calculs dont on parlait, a pensé qu'il pouvait imposer son ordre à l'Ukraine, donc imposer un nouveau type d'ordre, comme il l'a fait d'ailleurs dans d'autres occasions, avec brutalité, mais avec succès. Ça a été le cas de la Tchétchénie, ça a été même le cas de son intervention en Syrie, qui a quand même été très violente, mais qui a produit un effet favorable pour lui. Donc il était dans ce type de logique-là. Aujourd'hui, je pense qu'il est clair qu'il n'arrivera pas à imposer cet ordre, mais ça ne veut pas dire qu'il ne puisse pas y trouver son compte, parce que si vous n'avez pas la force d'imposer l'ordre, vous pouvez avoir la force d'imposer le chaos. Poutine est très bon, disons, dans la gestion du chaos et dans l'utilisation du chaos comme une arme non seulement militaire, mais mentale et politique. Il reverse ça contre ses ennemis d'aujourd'hui, qui ne sont pas que les Ukrainiens, mais c'est aussi l'Union européenne et les États-Unis et l'OTAN. Et donc, je crois qu'il a aujourd'hui une stratégie du chaos. On voit ça, par exemple, par rapport à ce qu'il fait sur les récoltes de blé, où on voit bien qu'il y a une stratégie pour provoquer dans le grenier d'Europe, l'Ukraine, une grosse difficulté en termes de production de blé, qui aura des répercussions, notamment sur des pays, par exemple, de l'Afrique du Nord, qui eux-mêmes produisent de l'immigration. Donc, il y a une pensée quand même qui reste stratégique, à mon avis, dans la tête de Poutine, et qui est plus à l'aise avec le chaos que nous ne le sommes nous, qui reste donc très dangereuse.
Merci Giuliano D'Ampoli. Le match du Kremlin, je le rappelle, c'est un roman, mais c'est un roman très intéressant si l'on veut comprendre ce qui se passe aujourd'hui en Russie. Ça vient de paraître chez Gallimard. On fait une pause, on se retrouve juste après avec un professeur de droit public, il s'appelle Jean-Philippe Derosier.
9h-10h, c'est arrivé cette semaine.
Frédéric Taddeï.
Bonjour Jean-Philippe Derosier.
Bonjour.
Vous êtes professeur de droit public à l'Université de Lille et vous avez eu une idée assez originale. Vous proposez dans l'avenir de regrouper le même jour l'élection présidentielle et les législatives.
Déjà, ça pourrait renforcer de la participation électorale parce que on verra ce qui se passera les 12 et 19 juin prochains, mais habituellement, il y a une participation beaucoup plus faible lors des élections législatives que lors de l'élection présidentielle. Et donc, si on les faisait faisait le même jour, on peut imaginer que la participation sera identique ou à peu près identique, comme d'ailleurs c'était le cas l'année dernière pour les élections départementales et régionales. Et donc, cela renforcerait la participation aux élections législatives. C'est un premier point qui n'est pas non plus à négliger parce que ça renforcerait donc la légitimité des députés. Le deuxième élément, sans doute encore plus important, c'est que aujourd'hui, avec une élection, des élections législatives qui se tiennent quelques semaines après l'élection présidentielle, les députés doivent entre en très grande partie, en tout cas ceux de la majorité, leur existence, leur légitimité à la victoire du président de la République, à un effet d'élan, une vague, comme on le dit souvent. Eh bien, en les élisant le même jour, les électeurs voteraient pour des candidats sans connaître le résultat de l'élection présidentielle, et donc la légitimité des députés, leur légitimité propre, serait aini renforcée, et sans empêcher ce phénomène de fait majoritaire qui est ainsi favorisé par l'élection présidentielle, les députés auraient leur légitimité propre qu'ils ne devraient qu'à eux-mêmes, en tout cas en partie, renforcerait le Parlement.
Mais Jean-Philippe de Rosier, c'est justement pour que le président élu dispose d'une majorité presque automatique et pour réduire les risques d'une cohabitation que l'on a mis le mandat présidentiel à 5 ans et que l'on a placé les législatives juste après la présidentielle. Pourquoi voulez-vous annuler, au fond, le bénéfice qu'on a en a tiré ou qu'on a cru en tirer ou qu'on en espérait ?
Alors, aligner les deux mandats est une bonne chose. Le quinquennat, ou en tout cas une durée identique entre le mandat des députés et le mandat présidentiel, est tout à fait bénéfique. Et il ne s'agit pas de le remettre en cause. La synchronisation des calendriers telle qu'elle a été faite au tout début des années 2000 pour une application en 2002 est également une bonne chose. Je ne suis pas pour placer les élections législatives avant l'élection présidentielle, car comme vous l'avez très justement souligné, c'est la logique même de notre Ve République qui est d'élire le chef politique de la nation, la personne du président de la République, et de lui confier ensuite une majorité pour pouvoir mener sa politique. Avec la proposition que je fais, en les élisant le même jour, on ne remet pas cela en cause, parce que très logiquement, les électeurs voteront pour un président et pour une majorité qui lui sera globalement conforme. Mais premièrement, ils seront plus nombreux à voter pour cette majorité, puisque ça devrait renforcer la participation pour les élections législatives. Et surtout, deuxièmement, ils le feront sans, quelque part sans se sentir liés par le choix qu'ils ont fait ou qui s'est imposé lors de l'élection présidentielle. Et donc, le faisant sans connaître le résultat de cette élection présidentielle, parce que si on fait le même jour, on ne connaît pas le résultat par définition, on a un choix plus ouvert, on est moins influencé, on a un choix plus ouvert, plus éclairé, plus libre.
Mais cela calquerait notre système sur le régime présidentiel américain où différentes élections sont regroupées le jour de l'élection présidentielle.
Oui, mais ce n'est pas la simple identité de jour qui fait le régime présidentiel américain, et notre régime est assez nettement différent de ce système américain. Aux États-Unis, il n'y a pas de Premier ministre, il n'y a pas de responsabilité politique. Et d'ailleurs, aux États-Unis, il n'y a pas de fait majoritaire. Il y a deux partis, mais en réalité, il y a 50 fois deux partis. Il y a quelque part 100 partis, puisque les républicains et les démocrates sont présents chacun dans les 50 États et avec des différences d'un État à l'autre. C'est ce qui fait que, en réalité, le système américain ne connaît pas le fait majoritaire tel que nous le connaissons en Europe et en particulier en France. Et regrouper ces élections le même jour ne nous transformerait pas en régime américain, puisque nous conserverions un gouvernement responsable politiquement devant le Parlement, dirigé par un Premier ministre. Simplement, les députés auraient une légitimité renforcée qui leur permettrait de faire valoir davantage leur position face à ce pouvoir exécutif.
Mais alors justement, cela renforcerait le régime parlementaire. Une alliance comme la nouvelle Union populaire écologiste et sociale risquerait de se constituer après les élections et non plus avant, donc dans le dos des électeurs. Comme sous la 4e République, on en reviendrait au régime des partis, honni par le général de Gaulle.
Non, parce que ce qui se passait sous la 4e République se passait du fait du régime, du système proportionnel. Et il ne s'agit pas là de passer au système proportionnel, il s'agit bien de rester dans le système majoritaire. Au contraire, les alliances se formeraient avant les élections, comme c'est là le cas pour les élections législatives, mais en cohésion avec l'élection présidentielle. Et cette NUP qui a été faite par les partis de gauche, et en réalité plus que faite par les partis de gauche, elle a été dictée par la France insoumise et par Jean-Luc Mélenchon, ne se ferait, si c'est dans l'hypothèse où elle se réaliserait là aussi, ne se ferait qu'en concertation avec les deux élections, et donc ce serait beaucoup plus cohérent, puisque les candidats à l'élection présidentielle se réuniraient, se regrouperaient, se coaliseraient dès cette élection présidentielle pour porter cette dynamique de candidature présidentielle et de coalition aux élections législatives.
Et un gouvernement de transition comme celui d'Elisabeth Borne, à ce moment-là, ça n'aurait plus de raison d'être, car ce gouvernement, il est censé être une publicité pour la future majorité espérée par le président. On se demande d'ailleurs pourquoi il est soumis à un devoir de réserve. Il n'y aurait plus de gouvernement de transition, mais il pourrait y avoir une période de transition après l'élection, comme en Allemagne, en attendant que se constitue une majorité.
Exactement. Vous avez dit plusieurs choses. Premièrement, ce devoir de réserve auquel a été astreint le gouvernement Borne n'a aucun sens et d'ailleurs n'a aucun fondement juridique. Les seules règles juridiques, c'est que effectivement les ministres, le gouvernement ne peut pas faire campagne sur les fonds de l'État, ne peuvent pas bénéficier des moyens des ministères pour faire la campagne électorale et législative. Ça, c'est parfaitement normal et ça vaut d'ailleurs pour n'importe quelle élection, même locale. Un maire ne peut pas profiter des moyens de sa mairie pour faire sa campagne municipale s'il est candidat à sa propre succession. Mais les ministres peuvent parfaitement sortir de leurs réserves pour faire campagne et obtenir la majorité qu'ils espèrent là pour les élections de 2022. Deuxième point, effectivement, en regroupant élections présidentielles et élections législatives, il n'y aurait plus ce gouvernement de transition entre deux élections. En revanche, ma proposition est accompagnée d'une proposition complémentaire ou annexe qui est de prévoir un délai plus long entre la date de l'élection et la prise de fonction effective. Actuellement, c'est quelques jours à peine. Si on prévoyait un mois ou deux, vous avez dit c'est le cas en Allemagne, c'est surtout le cas aux États-Unis. On vote pour le président au début novembre et celui-ci ne prend ses fonctions que le 20 janvier au moment de son investiture. Ça se passe d'ailleurs dans d'autres États du continent américain. Eh bien, on aurait un temps pour composer plus sereinement les équipes, que ce soit le gouvernement lui-même, trouver le Premier ministre, composer les membres du gouvernement, mais aussi les cabinets, préparer les premiers textes, et dès l'investiture officielle qui aurait lieu plusieurs semaines après l'élection, eh bien, tout le monde serait disposé à se mettre au travail.
Merci Jean-Philippe de Rosier. Écoutez, ça fait réfléchir.
Merci.
Et c'est toujours bon de réfléchir avant une élection. Merci d'avoir été mon invité sur Europe 1.
Europe 1.
C'est arrivé cette semaine, arrive à son terme. Rendez-vous demain matin à 9h pour la suite. Appareil flash, ce sera Pierre de Villeneuve et les grandes voix d'Europe 1. Bonjour Pierre, quel est le programme ?
Bonjour Frédéric, on va jouer à cache-cache parce qu'on cherche le président Macron qui a disparu, aussi bien au point de vue de la politique intérieure que de la politique internationale.
Merci Pierre, bonne émission.